Voilà, bonjour à tous. Alors pour ceux qui sont revenus de vacances, eh bien j'espère que les vacances se sont bien passées, que vous êtes en forme. Et puis, bon, si vous avez déjà un peu de nostalgie, il y en a d'autres qui arrivent. Moi j'ai un privilège avec Chantal, je suis en vacances toute l'année. Mais bon, cela ne veut pas dire que l'on ne part pas non plus de temps à autre, certainement pas. Mais bon, pour l'instant, nous sommes restés en Auvergne, parce que c'est une belle région. Nous avons déjà commencé notre cheminement ce matin avec David, alors je vous suggère que nous restions avec David ce matin. Et nous allons le rencontrer dans une période de sa vie où il semble que tout va bien. Et là, nous allons le retrouver dans son château, dans son palais, pour être plus précis. Et puis, il est en train de réfléchir, il fait un peu le point et il se remémore un petit peu le... Comment en est-il arrivé là? Et puis surtout, il y a un souvenir qui lui revient à l'esprit. Donc je voudrais ce matin parler d'un sujet dont nous sommes tous, sans exception, les bénéficiaires. Peut-être que certains ignorent ce privilège, c'est possible. Alors je veux partager avec vous sur le thème de la grâce, et cela à partir d'un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament. Peut-être pensons-nous que la grâce commence à se manifester et à s'exercer à partir du Nouveau Testament avec la venue du Seigneur Jésus. Eh bien non, la grâce se manifeste dès les premiers versets de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Donc la Bible contient de belles illustrations de ce genre de grâce. Et chaque fois que nous en découvrons une, eh bien, nous sommes surpris face à son immensité. Donc, nous trouvons l'un de ces moments dans la vie de David. La vie de David est une source riche en enseignements. Donc, nous sommes là pendant quelques heures, parce que nous allons faire tout le tour. Eric, il commence à avoir peur. Non, je vais essayer d'être assez bref. Donc, je crois pouvoir dire que c'est la plus grande illustration de la grâce de tout l'Ancien Testament. Il est rapporté l'histoire d'un homme insignifiant, oublié, au nom imprononçable. Je veux parler de Méphibosheth. Alors, si vous ne vous rappelez pas de ce nom, ce n'est pas grave. C'est une belle histoire. Et parfois, je pense qu'il est vraiment dommage que de grands scénaristes d'Hollywood n'aient pas pensé à faire un film sur cet exemple. Parce que la Bible tout entière contient des scénarios incroyables. Bon, certains ont eu l'inspiration de faire quelques films, mais ils sont loin d'avoir épuisé tout le sujet. Donc Méphibosheth, c'est vraiment une belle histoire. David vit un temps de paix, de tranquillité. Je peux dire ça comme ça, il a mis les nations environnantes au pas, si j'ose dire. Hein, ils se sont frottés en défouraillant l'épée, et puis bon, bah, les autres, ils ont compris que ce n'était pas la peine de venir chercher des histoires à David et à la nation. Il en profite pour penser à son passé et à toutes les bénédictions qu'il a reçues. Et je suis sûr qu'il s'est attardé plus particulièrement sur son amitié avec Jonathan, son ami, qui est mort au combat, et sur le père de Jonathan, Saül, le prédécesseur de David. Et en réfléchissant à ces deux hommes et à l'impact qu'ils ont exercé dans sa vie, David a commencé à se souvenir d'une promesse qu'il avait faite. Après réflexion, il décide d'agir. Et nous lisons cela en 2 Samuel 9, verset 1. En 2 Samuel 9, 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Le mot « bien » est un peu faible. On pourrait traduire « pour que je lui manifeste de la grâce à cause de Jonathan ». La grâce est une acceptation positive et inconditionnelle, quel que soit son bénéficiaire. C'est une démonstration d'amour immérité gratuit et impossible à rembourser. David réfléchit. Y a-t-il dans toute cette région quelqu'un envers qui je pourrais manifester cette grâce et démontrer ce genre d'amour? Pourquoi David voulait-il faire cela? Parce qu'il avait fait une promesse. En fait, il en avait fait deux. Nous allons dans 1 Samuel, chapitre 20, et versets 13 à 14. 1 Samuel 20, 13 à 14. C'est un moment où David fuit pour sauver sa vie et tout le monde sait que David va remplacer Saül un jour ou l'autre sur le trône. Alors nous lisons. « Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » Le mot « bonté », en fait, il s'agit du mot « grâce ». À cette époque, la coutume voulait que lorsque le nouveau roi arrivait sur le trône, on coupe la tête à tous les membres de la famille de l'ancienne dynastie pour être tranquille. C'était les us et coutumes de l'époque. Quoiqu'aujourd'hui, ça se passe autrement. Donc Jonathan affirme donc, David, quand tu accéderas au trône, d'ailleurs ça va arriver, voudras-tu faire grâce à ma famille, contrairement à la coutume des autres rois? Préserveras-tu nos vies? Prendras-tu soin de nous et nous protégeras-tu afin que nous ne soyons pas oubliés? Et David accepte sans hésiter. Son amitié pour Jonathan pousse à faire alliance et à s'engager, à prendre un engagement envers son ami. Et en 1 Samuel 20, on poursuit la lecture au verset 16 à 17. « Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. » Par la suite, on se souvient, après que David ait épargné la vie de Saül dans la caverne, Saül lui dit en 1 Samuel 24, 21, 23, « Maintenant voici, c'est Saül qui parle, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. David a donc fait une promesse à Jonathan et à Saül. Et ensuite, ce qui est rapporté dans 2 Samuel chapitre 9, David a repensé à son engagement et il s'est mis à demander aux gens de son entourage « Reste-t-il quelqu'un ?» David ne demande pas « Reste-t-il quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui soit assez honorable pour le rang que j'occupe? Reste-t-il quelqu'un qui soit digne d'eux ?» Non. Y a-t-il quelqu'un qui que ce soit, qui soit encore en vie afin que je lui manifeste ma grâce? C'est une acceptation totale, fondée sur l'amour inconditionnel. Et effectivement, on a trouvé quelqu'un. En 2 Samuel 9, versets 2 et 3, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Il était handicapé. Nous allons voir plus loin pourquoi. Ici, nous lisons entre les lignes. Nous avons le sentiment que Tsiba donne au roi un conseil plus ou moins voilé, indirect. Il sous-entend, « Mais enfin, David, réfléchis quand même. Tu ferais bien de réfléchir à deux fois avant d'agir parce que ce gars-là n'aura pas très fière allure dans ton palais. Ça va faire tache un peu, tu vois. Il ne convient ni à ton, ni à l'entourage, ni à ta salle, ni au trône, ni à ta belle maison neuve de Jérusalem. Tu sais, David, il est gravement handicapé, le gars. Hein. Et David demande, y a-t-il quelqu'un ? Et Tsiba répond, oui, mais il est handicapé. Et la réponse de David est royale. En fait, nous sommes dans la cour des grands. Il s'exclame, où est-il ? David ne demande pas, mais son handicap est-il grave ? Ni même comment il a fait pour être dans cet état-là ? David dit simplement, à quel endroit se trouve-t-il ? La grâce est ainsi. Elle n'est pas exigeante. Elle n'attribue pas son amour selon les mérites. Elle agit indépendamment des réactions ou des capacités de ses bénéficiaires. Elle est à sens unique. Je le répète, Dieu accorde sa grâce en pleine connaissance de cause à quelqu'un qui ne la mérite pas, qui n'a rien fait pour la gagner et qui serait bien incapable de rendre la pareille. Donc c'est ce qui rend l'histoire de David et de Mephibosheth si incroyable, inexplicable avec la raison. Un roi puissant et célèbre s'est abaissé jusqu'à quelqu'un de totalement insignifiant, banal, commun. David a simplement demandé, où est-il ? Et en 2 Samuel 9, verset 4, Hetsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Alors là, ça ne me dit pas grand-chose, mais on va essayer de voir ce que c'est. Je ne suis jamais allé en vacances. Lodebar est un lieu intéressant. En hébreu, lo veut dire pas de. Et debar vient du mot pâture ou pâturage. Donc Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, était dans un lieu où il y avait une désolation inimaginable. Il vivait dans un coin obscur, aride de la Palestine, et comme la coutume voulait qu'on extermine tous les membres d'une dynastie précédente, eh bien ce genre de personnage était soit assassiné, soit réfugié ou caché dans un endroit et oublié pour le reste de sa vie. Et c'était ce que cet homme avait fait. Il s'était fait tout simplement oublier. Mephibosheth s'était fait oublier, caché, et seulement un vieux serviteur de Saül, du nom de Tsiba, savait ce qu'il était devenu. David n'a pas demandé, mais comment cet homme est devenu handicapé des deux pieds ? Comme nous sommes curieux, alors nous trouvons la réponse au chapitre 4 de 2 Samuel. C'est une histoire rocambolesque, remplie d'émotions, qui vient ajouter de la tragédie à la situation. Retournons en arrière quelques instants, en 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et des Jonathan, oui, parce que le père et le fils sont morts sur le même champ de bataille. Et la nounou qui gardait le petit gamin savait très bien que le roi Saül, son fils mort, eh bien, qui allait accéder au trône ? David, donc le petit gamin, était aussi appelé à être trucidé. Enfin, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Donc, sa nourrice le prit, s'enfuit, et comme elle se précipitait dans les escaliers, c'est pas marqué, mais j'imagine, eh bien, il tomba, il resta boiteux, son nom était Mephibosheth. C'est horrible. Mais c'est l'histoire. Et quand la nounou du petit garçon apprend donc que Saül, Jonathan sont morts, elle le prend dans ses bras, s'enfuit pour le protéger, mais dans sa précipitation, elle trébuche, l'enfant lui échappe des mains, et puis à la suite de cette chute, il reste handicapé pour toujours. Il demeure caché en permanence pour ne pas perdre la vie. La dernière chose qu'il souhaitait, Méphibosheth, c'était qu'un messager du roi frappe à sa porte. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Nous pouvons imaginer le choc que Méphibosheth a éprouvé lorsqu'il a ouvert la porte de sa maison et qu'il a reconnu les soldats de David. Ils ont réussi à me retrouver et la fin est arrivée. Un des soldats dit : le roi veut te voir. Et dans son esprit, il se dit : cette fois, c'est la fin, je suis fichu, je vais mourir. Les soldats l'emmènent à Jérusalem, devant David lui-même. Vraiment, j'aime ce genre de scène parce qu'il est facile de mettre son imagination en route. Et c'est vraiment une histoire qui est vivante dans la Bible. Et 2 Samuel 9, verset 6, nous lisons « Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth ?» Et il répondit « Voici ton serviteur. » Là, c'est un moment qui est rempli d'émotions d'un côté et de peur de l'autre. Méphibosheth, tremblant de peur, terrifié, jette ses béquilles et se prosterne devant David, le roi qui a tous les droits sur sa vie. David dit « Est-ce que tu es Méphibosheth ?» Et il répond en tremblant « Oui, c'est bien moi. » Il s'attend au pire, au verset 7. David lui dit « Ne crains pas, parce que je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père. » Et tu mangeras toujours à ma table. Oh. Imaginons ce que Méphibosheth a dû ressentir à ce moment-là. Il s'attendait à recevoir une épée à travers de la gorge et il entend le roi David lui dire des paroles inimaginables. Méphibosheth a osé lever les yeux enfin. Et il a très bien décodé sur le visage de David. Il a compris que c'était sérieux. On n'était pas là pour rigoler. Et David l'a regardé. Il lui dit, « Mon ami, tu vas avoir une place d'honneur telle que tu n'en as jamais eu auparavant. Tu deviendras un membre de ma famille et tu mangeras tous les jours à ma table avec moi. » Mais il y a mieux encore. On va lire en 2 Samuel 9, versets 8 à 13. Il se prosterna, Méphibosheth, et dit, « Qu'est-ce ton serviteur ? Pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de David, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Les amis, voilà une magnifique illustration de la grâce. Nous pouvons imaginer de belles années qui l'attendaient à la table du roi. On peut rêver. Peut-être que l'un d'entre nous serait peut-être invité à manger tous les jours à la table de l'Élysée. Quand le repas était prêt, la sonnette du dîner retentissait, les membres de la famille arrivaient avec leurs invités. Alors je vais en nommer quelques-uns, par exemple, Amnon entrait le premier, puis Joab, le chef d'état-major, lui, il n'avait pas été limogé à l'époque, droit et raide dans ses bottes. Ensuite, il y avait Absalom, un vrai top modèle. Alors là. Et puis Tamar, au visage d'ange, la fille de David. Puis Salomon arrivait, lentement, la tête remplie de mille et une choses. Puis tout le monde entendait arriver dans le couloir le bruit des béquilles sur le carrelage. C'était Méphibosheth qui arrivait. Et péniblement, il arrivait jusqu'à sa place. Il souriait et rejoignait humblement les autres à la table des fils du roi. Et la nappe de la grâce venait jusqu'à couvrir ses pieds. N'est-ce pas un beau scénario pour un film? Vraiment? Alors, comment comprendre la portée de la grâce? Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Enfin, pas vraiment. Elle se poursuit dans la vie de tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire de vous et moi. Nous pouvons trouver au moins 8 analogies qui en témoignent. 1. Autrefois, Méphibosheth bénéficiait d'une communion permanente avec son père, Jonathan. Et puis, Adam marchait avec le Seigneur dans le jardin, bénéficiait d'une communion permanente avec son père, le Créateur. Comme Adam, Méphibosheth savait ce qu'était la communion intime avec le roi. 2. Quand la mort du père et du grand-père a été annoncée, la nounou affolée a fui et Méphibosheth est tombé, il a été handicapé pour le restant des jours. De même, quand le péché est apparu, Adam et Ève, par peur, se sont cachés. Et la première réaction de l'humanité a consisté à se cacher loin de Dieu et à trouver des raisons pour ne pas rester auprès de lui. Le résultat, c'est que l'humanité est devenue une invalide, handicapée spirituelle, et qu'elle restera telle tant qu'elle sera sur la terre. 3. Par amitié pour Jonathan, David a manifesté sa grâce envers son fils handicapé. De même, Dieu, par amour pour son fils Jésus-Christ et grâce à la rançon qu'il a payée sur la croix, a manifesté sa grâce envers tous les pécheurs qui ont foi en lui. Il cherche toujours des gens spirituellement handicapés, morts à cause de leur dépravation, perdus dans leur offense et leur péché, cachés loin de Dieu, brisés, terrifiés, désorientés, cabossés par la vie. Aujourd'hui, si nous marchons avec le Seigneur, eh bien, c'est parce qu'il nous a manifesté sa grâce par amour. 4. Méphibosheth n'avait rien, ne méritait rien, ne pouvait rien rembourser. En fait, il n'a même pas essayé de gagner la faveur de David. Il s'est caché loin de lui. C'est vrai aussi pour nous. Nous ne méritons rien. Nous n'avions rien, nous ne pouvions rien offrir à Dieu. Nous nous cachions lorsqu'il nous a trouvés. Et certains d'entre nous se souviennent avoir été, peut-être dépendants de la drogue, avoir mené une vie futile, avoir accumulé les déboires, les méfaits, les relations extra-conjugales, en se demandant où tout cela allait bien pouvoir les mener. Nous n'avons pu rien offrir à Dieu. On n'a absolument rien à lui donner, ni aucune bonne œuvre qu'on puisse considérer comme juste. Et pourtant, et cependant, le roi s'est attaché à toi, à moi. N'est-ce pas là incroyable? C'est plus encore. Il s'agit tout simplement de la grâce. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous démontre un amour et un pardon que nous ne pouvons pas gagner, que nous ne méritons pas, que nous sommes totalement incapables de rembourser. Oui, c'est la grâce. La grâce libératrice, celle qui renonce à toute exigence, qui s'appuie totalement sur un Seigneur qui vient nous trouver pour nous dire « Tu m'appartiens, je te prends exactement comme tu es, avec tes béquilles, tes complexes, tes limites, etc. » Mais tu es à moi, viens. 5. David a transporté Mephibosheth dans un lieu, d'un lieu stérile, désert, à une place d'honneur. Il a tiré cet homme handicapé de sa cachette, où il n'y avait aucun pâturage. Il l'a conduit dans un lieu d'abondance, dans la cour même du roi. L'analogie est claire. Dieu nous a transportés de l'endroit où nous étions, au lieu où il se trouve, et nous sommes en communion avec lui. Il nous a rendu ce que nous avions autrefois en Adam. En 6, David a adopté Mephibosheth dans sa famille. Il est devenu l'un des fils du roi. C'est ce que le Seigneur a fait pour les pécheurs qui ont eu foi en lui. Il les a adoptés dans la famille du roi des cieux. Il les a choisis, pris dans sa famille, et il leur a dit: assieds-toi à ma table, mange. Tout cela, tout ce qui est sur la table, c'est pour toi, vas-y, ne te prive pas. Et reçois ma vie. Pas au goutte à goutte, en abondance. Tous les chrétiens sont des enfants adoptifs de Dieu. Oui, vous ne le saviez pas. Bien maintenant, vous le savez. Vous êtes des adoptés de Dieu. 7. Le handicap de Mephibosheth lui rappelait constamment la grâce. Il n'avait rien d'autre que ses béquilles. Et voilà, il bénéficiait de toute l'abondance du roi. Chaque fois qu'il se traînait d'un lieu à un autre, à chaque pas, il se souvenait: je suis dans un lieu magnifique. Et je bénéficie de cette position privilégiée par la grâce du roi. C'est ainsi que cela se passe avec notre Père. Chaque fois que nous proclamons ce verset, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Nous nous rappelons que la grâce est à notre disposition. Le Seigneur recouvre nos pieds de sa nappe et dit: assieds-toi, tu m'appartiens, je te choisis simplement parce que tel est mon souhait. En 8, quand Mephibosheth s'est assis à la table du roi, il a été traité exactement comme les autres fils. Il n'y avait aucune distinction. C'est toujours comme cela que ça se passe. Et cela continuera à jamais lorsque nous serons autour de la table du repas céleste. Vous savez que cela va arriver. Moi, j'attends que ça. Par contre, maintenant, mon inquiétude est à côté de qui je vais être assis. Alors ça, c'est... Puis qui va être en face de moi? Mais bon, ça, c'est totalement secondaire. Mais imaginez être à la table du banquier. Du banquier, pas du banquier. La table. Vous apercevez Paul, l'apôtre. Puis un peu plus loin, Pierre. Oh là, Pierre, vous... Vous vous rappelez, Pierre, oula. Pierre, celui qui parlait et puis qui réfléchissait après. Ah, lui, je voudrais bien quand même parler un peu avec lui, quand même. Puis il y avait Jean, l'intellectuel du groupe. Ah, le philosophe, enfin bon. Et puis Abraham, enfin, je ne vais pas faire la liste parce que elle serait longue. Mais vous vous imaginez? Imaginez un instant. Combien ça... Enfin, moi, je suis enthousiasmé parce que... Un jour, ça va arriver. Et puis, enfin, le Seigneur fait le tour de la table, fait le tour des invités, s'arrête devant toi et te dit: tu sais que tu es à moi. Tu es aussi important pour moi que tous les autres qui sont ici, que tous mes autres fils, que toutes mes autres filles. Vas-y, serre-toi. Et on pourrait répondre: oui, Seigneur, oui, oui, je le fais. Il nous faudra toute l'éternité pour exprimer réellement ce que cette vérité veut dire pour nous. Il nous a choisis, malgré notre nature rebelle et pécheresse, et par sa grâce, il nous a tirés de cette demeure aride pour nous faire une place à sa table. Et par amour, il a laissé la nappe de la grâce couvrir nos péchés. Et je termine en disant, moi personnellement, merci Père de m'avoir trouvé quand je ne te cherchais pas, de m'avoir adopté alors que j'en étais indigne. Alors retenons que cette grâce pour vous et moi est toute suffisante pour chaque jour que Dieu nous donne de vivre, pour quiconque croit en Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen.